Alors ce soir encore, nous allons invoquer la bénédiction du Seigneur sur ces moments. À qui donc irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi ce soir, à la fin de cette semaine et de cette journée? Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton secours. Et nous voulons te demander de nous renouveler dans nos forces aussi, et que nous puissions vraiment entrer dans ton silence pour écouter ensemble ce que tu as à nous dire. Seigneur Jésus, ressuscité, nous voudrions vivre cette heure comme celle que tu as passée avec les disciples d'Emmaüs, qui s'en allaient tout tristes dans leur chemin, déçus dans leurs espérances. Et tu t'es approché d'eux, et nous voudrions vraiment que tu t'approches de chacun de nous ce soir, individuellement, que chacun de nous puisse sentir que c'est toi qui te penches sur notre âme. Ô Seigneur Jésus, oui, viens te pencher sur nos âmes. Elles ont tant besoin de toi. Et que nous puissions t'entendre, nous dire ce mot de grâce dont nous avons tant besoin. Donne-nous un cœur qui écoute. Et donne-nous une volonté qui se soumette à la tienne. Accorde-nous de faire confiance, de cesser nos luttes vaines et de nous abandonner, sachant que nous ne pouvons tomber que dans les bras éternels, dans tes bras de Père, au cœur de Mère, et que là nous puissions connaître cette divine étreinte et toute ta tendresse, toutes tes compassions pour chacune de nos âmes. Nous t'invoquons, ô Dieu notre Père, dans le nom de Jésus, celui que tu exauces toujours. Amen. Eh bien, mes amis, dans cette soirée du 13 octobre, vous avez considéré dans la solitude de vos chambres d'abord, puis dans vos groupes, le chapitre 3e de cet épître de Paul à Tite. Nous espérons qu'elle vous devient de plus en plus familière. Au chapitre 2e, cet après-midi, nous avons vu quelle était la prédication de la saine doctrine, ce que Tite devait faire entendre aux personnes qui formaient les communautés chrétiennes dans chaque ville de cette île de Crète. Dans le premier chapitre, nous avions vu la mission qu'il avait reçue d'établir des anciens, ce qui devait caractériser les anciens, puis dans le chapitre 2, la doctrine qu'il devait prêcher. Alors nous avons vu le devoir des hommes et des femmes âgées. Il n'y a pas une vieille église et une jeune église. L'église, c'est une famille, et dans cette famille, il y a des personnes aux cheveux blancs qui méritent le respect. Mais pour qu'elles méritent le respect, comme on le voit dans les proverbes, eh bien, il faut que ces personnes revêtent certaines qualités aussi et qui nous viennent du Seigneur. Et ce que Dieu ordonne, bien vraiment, il le donne à ceux qui se laissent conduire, que ce soit des hommes âgés ou des femmes âgées. Et c'est précieux de savoir que le Seigneur s'occupe de nous à tout âge. Et comme je l'ai souvent souligné, croyez-le, il n'y a pas de vieillesse spirituelle. Pour quelle raison ? Ben, parce que la vie chrétienne, c'est la vie même de Jésus. Alors Jésus, vous avez pu le voir enfant, vous pouvez le voir adolescent, puis vous le voyez homme fait. Mais vous ne voyez pas Jésus vieillard. Hein? Il est mort dans la plénitude de sa force. De sorte que il y a une enfance spirituelle pour nous tous, quand nous recevons le Seigneur, on commence d'être des petits-enfants, et qui avons besoin de lait d'abord, pour croître, puis ensuite, nous avons besoin de viande, d'une nourriture plus solide. Nous voyons donc Jésus enfant dans les croyants, mais nous le voyons aussi grandir, nous le voyons adolescent, et puis nous le voyons homme fait. Nous devons grandir jusqu'à la pleine mesure de la stature de Christ, mais comme nous le soulignons, Jésus n'a pas offert l'image d'un vieillard. Donc il n'y a pas de vieillesse spirituelle. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus en nous. Ce Jésus qui a quitté ce monde pour retourner au Père, alors que selon la nature humaine, il avait environ 33 ans. Nous avons vu ensuite les devoirs qui incombaient aux femmes plus jeunes et aux jeunes gens, aux hommes jeunes, dans ce chapitre 2. Puis, Tite est à nouveau exhorté à être réellement, lui qui prêche, un modèle, un exemple. Ensuite, on a considéré les devoirs des esclaves, on dirait des ouvriers, vis-à-vis de leur patron. Et en finale, cet après-midi, nous avons vu cet exposé merveilleux de ce qu'est la grâce de Dieu, source de notre force. Cette grâce qui nous apporte le salut, nous sommes sauvés par la grâce. C'est une grâce qui nous est faite, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et cette grâce, elle est apparue à tous les hommes. Dieu veut faire grâce à tous les hommes. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. C'est toujours de notre côté, mais Dieu ne nous viole pas. Dieu nous offre sa grâce, mais ne nous contraint pas de l'accepter. C'est notre responsabilité de recevoir cette grâce. Et cette grâce qui nous sauve, et qui est le Seigneur Jésus lui-même, devient notre source de force. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et non seulement elle devient notre source de salut, notre source de force, mais aussi notre maître. C'est la grâce qui nous enseigne. Nous ne sommes plus sous la loi du « tu dois et tu ne dois pas ». Nous connaissons la pensée du Christ, nous aimons cette pensée et nous laissons instruire par sa grâce quant à la vie que nous devons mener nous-mêmes. Ce qui est bon pour nous-mêmes, c'est la sobriété, parce que tous les excès nous détruisent et nous n'avons pas le droit de faire du mal à notre corps. Parce que quand on dit « mais je fais de mal à personne, même si je bois, je fais de mal à personne », mais vous n'avez pas le droit de devenir alcoolique, parce que vous pouvez transmettre aux générations qui vous succèdent des tares qui viendront de vous, de vos abus. Peut-être que vous ne finirez pas tout de suite par une cirrhose du foie, mais ce sont vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui souffriront des abus que vous avez faits, des excès. Vous disiez, je ne fais de mal à personne. Tu ne devais pas même te faire du mal à toi-même. Tu ne dois pas violer les lois naturelles. C'est pourquoi nous sommes inexcusables. Et c'est là ce verset qui est très sérieux. Il est dit que Dieu bénit. Jusqu'à combien de générations, ceux qui le craignent? Jusqu'à 1000 générations. Mais il est dit qu'il visite l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Mais c'est quand même vrai, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ça, je l'ai vu, des enfants qui maudissaient un père ou un grand-père, parce qu'ils savaient bien que ce qu'ils avaient était l'héritage des abus d'un père ou d'un grand-père même. Ça avait sauté une génération. Alors, faisons attention. Quand nous sommes au Seigneur, eh bien, c'est notre être tout entier qui lui appartient. Voilà l'enseignement de la grâce. Vivre dans la sobriété pour nous-mêmes, dans la justice vis-à-vis des autres, et dans la piété, dans nos relations avec Dieu. Avoir un réel contact avec Dieu. Nous l'appelons Père, et nous sommes ses enfants, et comme enfants, nous osons demander à notre Père ce qui est bon. Et lui sait ce qui est bon pour nous. Et nous lui faisons confiance. Quand un enfant demande à son Père, c'est Jésus qui disait cela, du pain, il ne s'attend pas à ce que son Père lui donne une pierre. C'est vrai. Et s'il demande un œuf, il sait bien que son père ne va pas lui donner un serpent. Nous le comprenons. Alors, nous faisons confiance à notre Père des cieux. Et nous pouvons en parler de notre Père des cieux. Est-ce que vous pouvez en parler de votre Père des cieux? Est-ce que vous pouvez dire que c'est vrai qu'il a un cœur de mère? Qu'il vous a déjà consolé? Que vous connaissez quelque chose de cette tendresse du Père, et que ce n'est pas de la littérature, que c'est quelque chose de vrai. Que le Seigneur sait prendre soin de ses enfants, et qu'il est bon, qu'il est gracieux. Oh, notre Père, hein, c'est pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, hein, le moulin à prière, non, notre Père. Quand le Seigneur disait, Père, glorifie ton nom, afin que ton fils te glorifie, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Quand il disait Père, c'était comme si le ciel s'ouvrait. C'est vrai. Père. Eh bien, c'est cette connaissance de Dieu que vous devez avoir. Qui est Dieu? Vous devez pouvoir dire Dieu, c'est mon Père. Je le connais et je l'aime, je vis de son amour. Il y a peut-être 15 ans dans cette salle ici, j'entendais des théologiens québécois qui disaient « Au Québec, il ne faut surtout pas parler de Dieu comme un père. » Pour quelle raison? Parce qu'on a un trop mauvais souvenir de nos pères. C'était les pères fouettards, etc. Eh bien, nous voulons parler de Dieu comme un père. Parce qu'en fait, nous sommes des orphelins. Nous sommes des orphelins. Et Jésus, voyez-vous, il nous a toujours conduits au Père, le vrai Jésus, pas n'importe quel Jésus, hein, parce qu'il y a un certain Jésus que l'on prêche qui n'est pas le vrai Jésus, un Jésus qu'on met à toutes les sauces. Mais le vrai Jésus, c'est un Jésus qui nous conduit au Père, et puis qui nous dit même qu'il ne s'attribue pas, Jésus lui-même ne s'attribuait aucune âme. Il disait que nul ne peut venir à moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il attribuait même les conversions qui se produisaient dans son ministère, il les attribuait à son Père. Il disait, ce sont des âmes qui ont été attirées par mon Père. Ce sont ces élus qu'il voulait sauver, et il m'a envoyé pour les sauver. Alors je les ai reçus du Père, j'ai accompli l'œuvre de leur salut, et puis maintenant je les donne au Père. Voilà ce que fait Jésus. C'est le Père et qui donne les âmes à Jésus, puis quand Jésus a accompli l'œuvre de leur salut, il conduit ses âmes à qui? Au Père. Parce que le Père voulait une famille des adorateurs et des adoratrices qu'il adore en esprit et en vérité, ce que nous essayerons de vivre demain matin dans ce culte de louange, d'action de grâce, où nous chercherons à répondre au désir du cœur du Seigneur qui, en instituant l'Eucharistie, la Sainte Cène, le repas du Seigneur, a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, nous vivons dans la piété, dans une relation vraie avec le Père, et puis, qu'est-ce que nous attendons pour l'avenir? Pas une catastrophe, la bienheureuse espérance, le retour du Seigneur Jésus qui vient premièrement pour enlever les siens, ceux qui ont cru, et il revient ensuite avec les siens pour se manifester dans toute sa gloire et sa puissance au monde et établir dans ce monde son règne de justice, et de paix. Tout cela se trouve déjà en germe dans cette épître à Tite que Paul lui envoie. Voilà la saine doctrine et la bonne nouvelle que Tite devait annoncer. Alors maintenant, dans ce chapitre 3, après cette petite récapitulation de ce que vous avez vu, nous trouvons les devoirs généraux du chrétien. On a vu ce qui doit être enseigné dans l'Église, mais l'Église se trouve maintenant dans le monde. Alors, quels doivent être nos rapports avec le monde? On a vu ce que doivent être nos rapports familiaux entre des femmes âgées, des hommes âgés, des jeunes gens, des maris, des épouses, des enfants. Mais maintenant, tout cela, la famille, elle se trouve dans le monde. Et dans le monde, pour que ce soit vivable encore, Dieu a établi des autorités. Les autorités qui sont établies dans ce monde, eh bien, sont des institutions qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas nécessairement des croyants qui gouvernent les pays, mais Dieu permet qu'il y ait des autorités, parce que grâce à l'autorité, il y a un ordre. S'il n'y avait pas d'autorité, qu'est-ce que ce serait? L'anarchie. Ce serait l'anarchie. Alors, tout au lieu que l'anarchie. Hein? De sorte que le chrétien, dans ce monde, tout en n'étant pas du monde, il reste soumis aux autorités. Et c'est ce que vous avez lu. Rappelle-leur, c'est ça la sainte doctrine, d'être soumis aux magistrats. Nous aurions d'autres versets qui pourraient jeter de la lumière sur les magistrats qui ne portent pas l'épée en vain, dit l'apôtre Paul. Alors nous devons avoir une vie qui est conforme, enfin, aux lois que nous avons dans la société. Et ces lois qui régissent nos sociétés, vous savez qu'elles reposent sur quelle loi? La loi de Moïse. Pour ainsi dire, tous les pays ont pris quand même la loi de Moïse comme base du code civil, des codes, des lois civiles. Alors, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités et d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc, dans ce verset, nous voyons clairement que un chrétien, c'est un homme qui est soumis aux autorités. Donc, il payera ses impôts, il sera honnête, il ne cherchera pas à faire une dissimulation. Il faut que certaines choses se passent dans ce monde et évidemment on est taxé, mais enfin on subit ces choses. Puis on se soumet aux règles établies par les autorités. C'est un témoignage, ça, chrétien. Mais vous voyez, il est question de soumission plusieurs fois dans cet épître. Combien de fois? Il est question, d'abord, de la soumission à qui? De verset 18, nous dit Jean. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas de verset 18, c'est moi qui m'attends. Oui, alors, il y a la soumission, mais avant, il y a la soumission des femmes à leur mari. Hein? Puis, il y a la soumission des... Non, il y a la soumission des ouvriers, n'est-ce pas, qui doivent respecter leur maître, ou des esclaves, parce que l'apôtre Paul n'a pas lutté d'abord contre l'esclavage. C'est des choses qui allaient être abolies. Mais Jésus avait dit lui-même qu'il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et peu à peu, quand l'Évangile a imprégné de plus en plus le cœur des hommes, eh bien, il y a des choses qui ont changé. Parce que là où l'Évangile est vraiment vécu, il y a des choses qui ont changé. Et il y a eu l'abolition de l'esclavage. Mais l'apôtre Paul n'a pas commencé par dire voilà, l'esclavage doit être aboli. Il a montré que les esclaves devaient avoir d'abord un témoignage, et c'est ce témoignage qui a amené aussi l'abolition de l'esclavage. Mais il y a des choses qui se font d'une façon progressive. Après la soumission donc des ouvriers, il y a la soumission maintenant aux autorités. Donc trois soumissions. Et qui nous a donné l'exemple de cette soumission aux autorités? Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit à Pilate? Quand Pilate lui a dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, mais que j'ai aussi le pouvoir de te crucifier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Donc Jésus lui-même a reconnu l'autorité même de Pilate et il s'y est soumis même s'il fallait mourir. Il a accepté l'autorité de Pilate et il a accepté de mourir. Parce que voyez-vous, je voudrais le répéter, je l'ai dit ces derniers mois dans plusieurs endroits, qu'est-ce que c'est pour vous réussir? Qu'est-ce que c'était pour Jésus réussir? Réussir pour Jésus, c'était mourir. Comprenez-le bien. C'était tout souffrir et mourir. Si Jésus n'était pas mort, eh bien, sa vie serait un bel exemple, mais il n'y aurait pas de chrétien. Il y aurait un exemple, et puis c'est tout. Mais il est mort justement pour que son œuvre réussisse. Parce que le grain de blé, si on le laisse dans un petit coffret, dans 1000 ans, vous trouverez combien de grains de blé? 1. Mais si vous le jetez en terre, eh bien, dans l'année même, il produira du fruit. 30, 60, 100. C'est par la mort que va jaillir la vie. Mais Jésus nous a donné cet exemple. Alors, si pour Jésus réussir c'était mourir, ça va nous préparer, nous, à comprendre comment peut se produire un changement en nous, une nouvelle naissance. Mais une nouvelle naissance qui sort de quoi? De la mort. C'est pas un homme qui rentre dans le sein de sa mère pour renaître une seconde fois. C'est un homme qui accepte de mourir dans la mort du Christ, qu'il entraîne ensuite, puisqu'il est le prince de la vie, dans sa résurrection, de sorte que on meurt en Christ et on est ressuscité aussi en lui. Et pour Jésus, je le répète, réussir, c'était mourir. Eh bien, pour nous aussi, si nous voulons une vie réellement chrétienne, cette vie-là, elle sort de la mort de Jésus. Nous sommes identifiés à lui dans sa mort. Et le signe de cette mort, c'est quoi? C'est le baptême. On est enseveli avec lui par le baptême, mais on ne reste pas dans l'eau du baptême, on en sort. Image d'une vie nouvelle dans le Christ. Donc, les premiers versets que vous avez lus rappellent-leur qu'ils doivent être soumis aux magistrats, aux autorités, qu'ils doivent obéir, être prêts à toute œuvre bonne. Dans nos relations avec le monde, nous devons être ouverts aussi à toute œuvre qui peut être bonne. Il est dit, faites du bien à tous, principalement à ceux de la maison de la foi. Il faut d'abord commencer par notre famille. nous avons d'abord des devoirs envers notre propre famille. Parce que celui qui oublie les siens pour faire un tas d'autres bonnes œuvres, il est pire qu'un incrédule. C'est ce que dit la vraie doctrine. Donc nos responsabilités sont d'abord des responsabilités familiales, puis ensuite des responsabilités ecclésiales. On aide d'abord ceux de la maison de la foi, ceux qui partagent notre foi, une foi commune, et qui sont dans la souffrance. Ce sont nos frères et nos sœurs dans le Christ. Alors on doit montrer notre piété aussi à leur égard, qu'on a un cœur ouvert pour eux, parce qu'on est membre du même corps. Si un membre souffre, tous les autres souffrent. Mais ce corps étant dans ce monde, on voit ce monde qui lui aussi souffre. Alors si on peut faire quelque chose pour soulager la souffrance du monde qui ne connaît pas encore le Seigneur, eh bien nous devons être ouverts à toute bonne œuvre qui peut être faite dans ce monde, d'être prêt à toute bonne œuvre. Par exemple, quand il y a une catastrophe, un raz-de-marée quelque part, ou un volcan, ou un tremblement de terre, eh bien nous devons être prêts aussi, dans la mesure de nos moyens, à aider ces gens-là, même que nous ne les connaissons pas, ou même s'ils étaient musulmans ou hindouistes, ça n'a aucune importance, ce sont des créatures de Dieu, et qui sont dans la souffrance. Mais nos premiers devoirs, c'est la famille, ensuite les croyants qui partagent notre foi, et puis le monde dans lequel nous sommes. Et là, au verset 2, nous avons une autre exhortation que nous ne devons médire de personne. J'ai parlé de la médisance, nous ne devons pas dire du mal des autres. Et je demande au Seigneur qui me garde aussi de cette tendance qui nous est si souvent naturelle. Dans une autre version, il est dit de n'injurier personne. Vous voyez que même l'archange Michel, le chef des anges, quand il a dû parler à Satan, il n'a pas employé des propos injurieux contre Satan. Même contre Satan, un ange, n'est-ce pas, n'a pas prononcé des propos injurieux. Il a dit que l'Éternel te censure. Voilà ce que l'archange Michel a dit au sujet de Satan. Alors nous ne devons pas nous moquer de Satan, hein, ou rire de Satan, parce que il est une réalité, c'est une puissance. N'injuriez personne. Puis il nous faut éviter quoi ? Les querelles, se montrer bienveillant, faire preuve d'une continuelle douceur envers tous les hommes. Et si vous reprenez ce chapitre 7, pour l'étudier avec un crayon et un papier, vous verrez qu'il y a plusieurs fois sept caractères. Vous retrouvez tout le temps les sept caractères. Il y a sept choses qui sont demandées aux fidèles, nos devoirs dans ce monde. Il y en a sept. Et alors, cette douceur que nous sommes appelés à manifester à tous les hommes, qui est notre exemple ? Jésus, hein. Qu'est-ce qu'il a dit de lui? C'est lui-même qui le dit. Apprenez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Bien, le vrai chrétien, il doit toujours être caractérisé par cette douceur et cette humilité. Ne devenez pas dur. Moi, j'ai toujours peur de ces chrétiens qui se deviennent durs. Ne permettez pas à la dureté de s'emparer de votre cœur. Ça, c'est le péché. Vous devez être doux et puis humble. Veillez à ne pas vous enorgueillir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies? Tu rends grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et ne laissez pas ces caractères de Christ se détruire. Nous devons être caractérisés par la douceur et l'humilité et cela envers tous les hommes, pas seulement envers les gens doux. Oh, je suis doux avec les gens doux, mais je suis violent avec les gens violents. Non, c'est pas cela. C'est par cette douceur nous gagnerons aussi les cœurs pleins de douceur envers tous les hommes. Pourquoi ? Parce que nous devons nous souvenir de la douceur que le Christ a eue pour nous. Et vous voyez verset 3, car nous aussi, vous avez une description de ce que nous étions. Nous étions autrefois, et de nouveau, si vous comptez, il y a 7 caractères. Nous étions insensés. Ça veut dire quoi ? Des fous. On ne croyait pas en l'existence de Dieu. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Pendant combien d'années ? Ben, il y a un tas de gens qui n'ont pas cru en Dieu. Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. Et puis, on faisait l'esprit fort. Bien, nous étions insensés. Nous étions désobéissants. Nous ne suivions pas du tout la volonté du Seigneur. Nous étions égarés. Voilà encore une autre chose qui nous caractérisait. Nous étions asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. S'il y avait des convoitises dans notre cœur, eh bien nous cherchions à satisfaire nos convoitises, courant partout où ces convoitises pouvaient être nourries, nos voluptés, vivant dans la méchanceté. Ben vous direz, mais moi j'ai jamais été méchant. C'est qu'on ne se connaît pas soi-même. Quand je suis dans la lumière du Seigneur, j'ai vu que je pouvais être méchant. Oui, c'est vrai. On peut être drôlement méchant. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais on peut avoir des pensées méchantes. Je l'ai dit quelquefois, quand on entend une sœur qui sort d'une église et qui parle à une autre en disant, tu as vu celle-là, hein? Si je pouvais, je la pilerais. Mais piler quelqu'un, surtout si vous avez des talons pointus, c'est peut-être la faire mourir. On vient pourtant d'entendre un serment, un prône, une homélie, que sais-je, une prédication. Et puis on ressort de l'office, on ressort du culte, du service, avec des pensées de criminel. On n'aime pas. On ne se salue même pas. C'est de la vie. T'as vu son chapeau ? Commentaire du culte. Vous direz, critiquer les femmes et les hommes. Hein, oui. C'est pas mieux, vous savez. C'est pas mieux, les hommes. Il vaut mieux ne pas en parler. Parce que c'est pire. Oui, nous étions mauvais, vivant dans la méchanceté, dans l'envie. Il a acheté une nouvelle voiture. Et on a envie de cette voiture-là. La mienne, elle commence à être rouillée. Elle va tomber en pièces. Vivant dans l'envie, au lieu de se réjouir, il a une nouvelle voiture, gloire à Dieu. Comme il n'aura pas d'accident. Et puis il est content. Mais ça me réjouit qu'il soit content. Oui, soit le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on ne se réjouirait pas de quelque chose qui arrive de bien à quelqu'un d'autre ? Mais moi, toujours moi. C'est horrible, ce moi, il faut l'enterrer. Vivant dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Au fond, on ne s'aime pas. Et c'est vrai, on ne s'aime pas beaucoup. Alors évidemment, Jean-Paul II a dit aussi, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qui avait dit ça avant lui ? Jésus. Alors il a dit une parole de Jésus, alors on accepte. Hein. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples si vous avez de l'amour entre vous. Mais pas de l'envie, de l'amour. Et l'amour, bien, il se réjouit avec la vérité. Alors vous voyez, il y a 7 caractères là aussi. Nous étions. Il y avait 7 abominations dans notre cœur. C'est ce qu'il est dit dans les proverbes. dans le cœur de celui qui est, il y a sept abominations. Dans le cœur de Caïn, vous pouvez faire une étude sur Caïn, il y avait sept abominations. Et ces sept abominations, vous les retrouvez dans le chapitre 15 de Matthieu. Le Seigneur nous montre que dans le cœur, il y a sept choses qui nous souillent et qui sont abominables. C'est vraiment le chapitre des sept ici. Et sept chiffres de la perfection, ou bien ou en mal. Donc voilà ce que nous étions. Alors, nous nous souvenons de ce que nous étions avant notre conversion. Mais, verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur. Est-ce que vous avez connu la bonté de Dieu? Oh, cette bonté. Cette bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Quand est-ce que ça a été manifesté? Quand Jésus est venu d'abord sur la terre à sa naissance, puis ça a été consommé à la croix. Quand il a pu dire, tout est accompli. Est-ce qu'il a accompli votre salut ou bien c'est vous qui devez l'accomplir? Il est accompli. Tout est accompli. C'est une parole que j'ai aimé dire et redire plusieurs fois au Golgotha de Jérusalem, pouvoir le dire là, aux pèlerins qui viennent là, leur répéter cette parole. Oui, il l'a dit. Tout est accompli. Votre salut n'est plus à faire, il a été fait par le Seigneur Jésus. Votre salut, il est à accepter, à recevoir et à en vivre dans la joie et dans la reconnaissance. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, et il est dit que Dieu a constaté l'amour qu'il a eu pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, c'est à la croix que l'amour de Dieu a été manifesté. Il nous a sauvés. Il n'est pas dit il nous sauvera. Hein? Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est en vertu de vos bonnes œuvres que vous pouviez être sauvés. Dieu n'a pas dit, oh ben, ils en ont fait tellement que maintenant, eh bien, je les sauve. Je leur accorde le salut. Non. Parce que, aux yeux de Dieu, la meilleure des œuvres que nous pouvions faire, elle lui apparaissait comme un vêtement plein de souliers. C'est l'Écriture qui dit. Ésaïe 64, la meilleure de nos œuvres, elle nous paraît très belle, hein, mais c'est comme un vêtement soulier. Et quand Josué, le souverain sacrificateur, qui croyait qu'il était bien vêtu, s'est trouvé dans la présence du Seigneur, qu'est-ce qu'on a vu? Que ses vêtements étaient sales. Chapitre 3 de Zacharie. Ses vêtements étaient sales. Et le diable, lui, il voyait les taches. Vous ne les voyez pas? Le diable les montre. Nos taches. Ah, le diable connaît bien le défaut de notre cuirasse. Il sait bien ce qui ne va pas en nous. Nous essayons d'oublier. Mais le diable rappelle ça. Il est l'accusateur des frères. Le Seigneur ne nous a pas sauvés à cause de justice que nous aurions faite, mais selon sa miséricorde. Et par quoi? Alors c'est là que nous avons le rappel de ce qu'est la nouvelle naissance et de tout l'enseignement de Jésus que vous trouvez dans le chapitre 3 du livre de l'Évangile de Jean, dans le récit qu'il donne à Nicodème. Chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, il est question là du baptême, et le renouvellement du Saint-Esprit. Quand Nicodème s'est présenté devant Jésus, vous savez qui était Nicodème? Un homme religieux, un pharisien, un théologien, et qui reconnaissait que ce que Jésus disait était vraiment de Dieu. Et il lui dit, dans la nuit où il vient le trouver, tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec toi. Puis, qu'est-ce que Jésus lui répond? Eh bien, je te remercie, Nicodème. Je suis encouragé parce que tu viens de me dire. C'est ça? Non, ils ne pas les encouragements, Jésus. Il dit, Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais Nicodème est estomaqué. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Un homme, il faut naître de nouveau. Et comment? Il dit, mais comment ces choses peuvent faire? Est-ce qu'on peut rentrer dans sa mère et naître? Vous voyez le tableau? Il est théologien, il est bouleversé. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il faut naître de nouveau. Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Un peu difficile. Il matérialise tout. Et Jésus continue, il dit non. Je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ou ne naît d'en haut, eh bien, il ne peut pas entrer ni voir le royaume de Dieu. Puis il ajoute, le vent souffle où il veut, tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème ne comprend pas. Il ne comprend pas. Comment cela peut se faire? Alors Jésus lui explique et arrive à cette conclusion en lui disant, mais souviens-toi, comment les Israélites qui avaient péché dans le désert et qui étaient mordus par les serpents et qui mouraient à cause de cette morsure, comment ont-ils été sauvés? Qu'est-ce que Dieu a enseigné à Moïse? Il lui a demandé de mettre quoi? Un agneau sur une perche? Non, pas un agneau, un serpent. Image de ce qui les avait mordus. Et le serpent, c'est l'image de qui? De Satan, hein, qui est du péché, le serpent qui nous a mordus. Et pourquoi est-ce que ces gens mouraient? Ils avaient murmuré contre le Seigneur, contre sa parole, contre cette manne que Dieu leur avait donnée. Et voyez-vous, là, nous avons une grande leçon à apprendre. Quand Dieu a donné à ce peuple d'Israël dans le désert la manne, c'était tellement merveilleux qu'il est dit que cette manne avait le goût d'un gâteau au miel. Puis, un peu plus tard, quand ils se sont habitués, ils ont dit que cette manne avait le goût d'un gâteau à l'huile. C'était plus la même saveur, hein, on s'était habitué. C'est ce qui arrive quand on lit la parole. Hein. D'abord, quand on vient de se convertir, on aime la parole, on trouve, on a le goût de la parole. Puis après, on s'habitue. Ça n'a plus la même saveur, c'est le goût d'un gâteau à l'huile. Puis pour finir, quand il y a eu les serpents, qu'est-ce qu'ils disaient? Notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Vous avez cela dans le chapitre 21 des Nombres. On en arrive à être même dégoûté de la parole, puis on ne la lit plus, parce que la manne est une image de la parole, de ce qui devrait nous nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on ne lit plus la parole. Alors on oublie, et on n'a plus d'espérance, parce que ce qui nous renouvelle, c'est les promesses de Dieu, c'est de garder en mémoire cette parole. Alors, à ce moment-là, eh bien, Dieu intervient parce qu'il n'est pas un homme pour mentir et il doit châtier ceux qui se moquent de lui. On ne se moque pas de Dieu. Alors, les serpents viennent mordre les Israélites. Et ils meurent. Quand ils essayent de se délivrer eux-mêmes de leurs serpents, s'ils regardent à leur morsure, qu'est-ce qui arrive? Ils meurent. Et vous-même, si vous regardez toujours à vos péchés, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous mourrez. Vos péchés, vous ne pouvez pas vous en débarrasser vous-même. Comme les Israélites, s'ils regardaient à leurs serpents et à leurs morsures, s'ils essayaient de s'en débarrasser, vous savez très bien qu'on ne s'en débarrasse pas. Hein. On fait des promesses, puis on recommence, on retombe toujours. Et finalement, c'est la mort. C'est le suicide, c'est le désespoir. Parce que vraiment, on ne s'en tire pas. Alors, dans leur détresse, ils crient à Moïse, et Dieu dit à Moïse, eh bien, fais-leur un serpent, mets-leur un serpent d'airain, mets-le sur une croix, et dis-leur que s'ils regardent au serpent, ils seront guéris. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Douter de la parole de Moïse? Non, croire. Ils étaient uniquement sauvés par la foi, par ce regard sur quoi? Sur le serpent qui était là, sur la perche. Et dès qu'ils regardaient au serpent, sur la perche, ils étaient guéris. Alors, nous autres, qu'est-ce que nous sommes en train de regarder? Nos péchés? Notre nature échoue? On ne s'en sort pas. Qu'est-ce que nous devons regarder? Jésus. Mais pourquoi est-ce que c'était un serpent? Bien parce que Jésus, lui, il a été fait péché pour nous. C'est cela qui doit vous bouleverser. Jésus qui n'avait jamais péché. Jésus dont l'âme était absolument sainte, qui haïssait le péché, mais qui aimait le pécheur, il a consenti à être traité comme si c'était lui-même qui avait fait nos péchés. Il a été traité comme s'il était lui-même le serpent. Comprenez-vous? Il a été fait péché pour nous. Il a été comme un serpent. Et il a été traité comme le serpent devait être traité. C'est lui qui a été damné pour nous. Pour que nous, nous ne soyons jamais damnés. Pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Il s'est identifié à nous et il a été fait péché pour nous. Et c'est cela que Jésus enseigne. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme, qui était le Fils de l'homme, c'était Jésus lui-même, soit élevé. Oui, il est bien l'agneau de Dieu. Mais cet agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde, il a dû prendre notre péché sur lui et comme s'il était le serpent, il a crié au Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était fait péché pour nous, pour que nous, nous soyons absolument et totalement sauvés. Mais Jésus dit que comme le serpent a été élevé, lui aussi devra être élevé, c'est-à-dire crucifié. Il annonce à Nicodème la mort et il montre que c'est uniquement par cette mort que nous pourrons renaître. La nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est non pas simplement accepter que Jésus est notre sauveur, mais c'est accepter de le suivre et d'aller avec lui dans sa mort. Il dit, tu veux me suivre, renonce à toi. Suis-moi. Et il vous montre que pour que vous soyez libérés de la puissance du péché, qu'est-ce qu'il faut? Mourir. Mais vous n'avez pas le droit de vous suicider, alors Jésus est venu pour vous donner en sa mort la possibilité de mourir. Quand on accepte Jésus, on se livre à lui, tel que nous sommes. Il ne vous demande pas d'abord de vous délivrer de vos péchés. Si vous essayez de le secouer, vos péchés, hein, vous mourrez. Parce que les serpents sont à vos mains. Vous ne regardez pas vos morsures. Regardez le Seigneur. Et ce regard de foi, c'est cela qui vous sauve. Mais ce regard vous conduit à comprendre que ce n'est pas seulement Jésus qui est mort. Quand il est mort, c'est vous aussi qui êtes mort avec lui. Il a revêtu un corps de chair pour que votre péché que vous avez commis dans la chair soit jugé dans sa chair, qui était son péché, mais qui a été fait péché pour nous, et il est mort là, à la croix. Et quand il est mort, ce n'est pas lui seulement qui est mort, c'est vous aussi. De sorte que vous êtes mort à votre vie passée. C'est ce que vous devez bien saisir. Vous êtes mort à votre vie passée. Mais, est-ce que Jésus est resté dans la mort? Il est entré dans la mort. Est-ce qu'il est entré seul? Non. Il vous a pris avec lui dans sa mort. De sorte que, au lieu de Dieu, vous avez cessé d'exister en tant que pécheur. Quand Jésus est mort, vous êtes mort
en tant que pécheur, vous êtes mort en lui. Mais quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui est ressuscité avec lui? Vous-même. Il vous a pris avec lui dans sa résurrection. Mais comment cela? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais par la foi. Vous devez croire cela, c'est ce que Dieu nous dit, c'est cela sa parole. Il témoigne que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il nous entraîne ensuite avec lui dans sa résurrection. Mais alors la résurrection de Christ nous donne une vie vraiment nouvelle. Et le baptême que l'on prend est le signe de cette mort que nous vivons avec Christ. Le sens profond du baptême, selon Romains 6 et Colossiens 2, c'est notre identification au Christ dans sa mort. Et voyez-vous, cela, nous le croyons tous les jours. Considérez-vous comme mort au péché. Le péché, vous ne pourriez rien faire quand il est là, il est dans ce monde, il s'étale partout. Alors, si vous, vous voulez lutter contre le péché, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes vaincu. Mais si vous êtes mort, est-ce que le péché a de la puissance sur vous? Vous avez vu déjà un mort? Oui. Je ne vais pas vous plonger dans la tristesse. Vous avez des souvenirs. Mais ce mort, vous saviez qu'il aimait bien une cigarette. C'est maintenant qu'il est mort au salon mortuaire. Allez lui offrir une cigarette. Est-ce qu'il il sera tenté? Il ne répond pas. Vous n'avez plus de puissance. Vous pouvez plus tenter. Eh bien, vous considérez-vous comme mort. Le péché n'aura pas de puissance sur vous. Alors vous dites, mais comment me considérer? Comment moi je suis bien vivant, je me sens vivant, j'ai des traits, je les sens, hein, et j'ai des tentations, j'ai des luttes. Donc, bien, Seigneur, je suis mort, tu l'as dit, je crois. Vous êtes sauvé par la foi. Pas parce que vous sentez quelque chose, pas parce que vous sentez que vous êtes mort. Il n'est pas question de sentir qu'on est mort. Mais de croire ce que Dieu nous dit, tu es mort, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. C'est ça qui nous mène à une vie de prière de tous les jours. Ce n'est pas ce que je ressens qui est vrai, c'est ce que Dieu me dit. Parce que ceux qui étaient mordus par les serpents, qu'est-ce qu'ils ressentaient? Ils ressentaient la morsure. Mais s'ils regardaient aux serpents, ils avaient la guérison. Eh bien, vous regardez au Christ. C'est lui qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort et qui devient votre vie. Mais vous voyez, le Christ ressuscité, vous êtes maintenant en lui ressuscité. Vous êtes identifié à lui. Donc, ce n'est plus vous qui vivez, c'est qui? C'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul. Et ça, c'est un verset capital des Galates pour la vie chrétienne. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, hein, mais il n'est pas dit je le vis selon la chair, mais je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ma vraie vie, je la vis dans l'autre. Vous comprenez? L'autre avec un grand A. C'est Jésus qui est vraiment maintenant votre vie. Quand vous dites que vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous acceptez aussi qu'il soit votre Seigneur. Vous acceptez qu'il vous a racheté, de fait, s'il vous a racheté, vous lui appartenez. Et si vous lui appartenez, eh bien maintenant, votre corps aussi bien que votre âme et vos membres appartiennent à Dieu et vous vous abandonnez à lui en lui disant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur ne vous fera pas tomber dans le péché. Mais il vous donnera la force de triompher du péché. Tant que vous comptez sur lui, tant que vos yeux sont sur lui, c'est pourquoi il est dit plusieurs fois, fixez les yeux sur Jésus. renonce à toi. Ne regarde plus à ce que tu es, regarde à ce qu'il est. Nourris-toi des perfections de Jésus. Aie devant les yeux, non pas ce que vous voyez constamment à la télévision, parce que, vous savez, vous avez beau me dire que vous ne regardez que ce qui est bien. Vous ne devez pas la regarder souvent, alors. Mais nous sommes foncièrement menteurs. Que Dieu soit vrai, tout homme menteur. Il y a des gens qui nous disent, moi j'ai la télévision seulement pour ceci, seulement pour ça. Je ne regarde que les émissions religieuses. Menteur de menteurs. Et tous les menteurs n'héritent pas du royaume de Dieu. Alors il faudrait aussi mettre de la vérité. Je veux dire, non, mais j'ai la télévision, ben oui, et puis je regarde bien d'autres choses, c'est vrai. Et puis, forcément, quand je vois tout ce qui s'étale dans ce monde, que je mets le péché sous mes yeux, quand je mets les abominations devant mes yeux, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Oh, j'ai les plus saines pensées. Je deviens saint. Je me perfectionne. Je grandis spirituellement. Je me rapproche du Seigneur. C'est vrai? On sait bien. Si on met l'abomination sous ses yeux, ou l'abomination entre ses dents, comme il est dit aussi, eh bien, on ne plaît pas au Seigneur. Et le Saint-Esprit est contristé. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne veut plus voir. Qu'il y a des choses qu'on ne veut plus entendre. Parce qu'il y a des choses qui nous souillent. Et quand ces choses, on comprend qu'elles nous souillent, qu'elles nous font tomber, on les abandonne. Parce qu'il est question d'un choix. Et c'est la grâce. C'est pas la loi, c'est pas parce que vous êtes sous la loi, mais il y a des choses que vous abandonnez. Et voyez-vous, on est lavé de tout ce passé, et son esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va agir, son Saint-Esprit, il nous renouvelle. On est lavé par le bain de la régénération, il y a donc le baptême qui signifie la mort de Christ, mais la résurrection nous apporte le renouvellement du Saint-Esprit. Et voyez-vous, après la conversion, nous devons connaître ce renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est fait plusieurs fois dans les Actes. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit initial, historique, dans le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Mais après, il est parlé plusieurs fois d'un renouvellement du Saint-Esprit. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, de ce renouvellement du Saint-Esprit. Et quand nous nous jugeons de ce qui ne plaît pas à Dieu, eh bien, nous préparons l'action puissante du Saint-Esprit qui va nous renouveler et nous donner de nouvelles forces et nous faire avancer dans la sanctification. C'est un verset qui est très important, ça, le renouvellement du Saint-Esprit. Vous êtes convertis, je le crois, je veux le croire, mais est-ce que vous voulez être renouvelé par le Saint-Esprit? Et c'est un renouvellement quotidien. Ce Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous, comment? Avec abondance, pas chichement, mais avec abondance. Alors vous devez le croire, il y a une puissance qui est à votre disposition avec abondance, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Afin que justifié par sa grâce, c'est toujours sa grâce qu'on compte, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle, nous en jouissons déjà, mais en espérance. Mais nous savons qu'elle est à nous, qu'elle est en nous déjà, et que cette vie éternelle, nous la connaîtrons dans la plénitude, quand le Seigneur reviendra. Alors, cette parole est certaine. Et je veux, vous voyez, c'est encore une parole certaine, comme ce matin, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses. J'ai essayé de les affirmer ce soir. Vous allez relire ce passage. Je veux que tu affirmes ces choses. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, de vous dire, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru, non pas en Dieu, comme le dit Second, mais qui ont cru Dieu,
Il est question de croire Dieu, ce Dieu qui ne peut pas mentir, afin que ceux qui ont cru non seulement en Dieu, en son existence, mais qui ont cru Dieu, qui ont cru sa parole, s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres.
Vous aurez remarqué peut-être, je ne l'ai pas signalé, que 6 fois dans cet épître, il est question des bonnes œuvres. Et il est question de pratiquer les bonnes œuvres. Si on est sauvé par la grâce, c'est pour accomplir des œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais les œuvres sont la manifestation, l'authenticité, la preuve de la réalité de notre salut. Et ces œuvres, on les accomplit, on les pratique par amour. Ce ne sont pas des œuvres mortes, des œuvres que l'on fait pour être sauvé aux yeux de Dieu, ce sont des œuvres mortes. Les œuvres que l'on fait, ce sont des œuvres de foi. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce ne sont pas les œuvres que nous choisissons. Les bonnes œuvres et qui plaisent à Dieu, ce n'est pas les œuvres que nous choisissons. Moi, je veux être à l'œuvre du Seigneur. Je veux me mettre à l'œuvre du Seigneur. Non. Il est question, Seigneur, quelles sont les œuvres que tu veux que j'accomplisse? Tu les as préparées d'avance pour que je les accomplisse. Eh bien, je veux, Seigneur, te demander que tu ouvres mes yeux pour voir ce que tu as mis devant moi. Et je dois alors les pratiquer. Et je les pratique avec la force que lui me donne. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est la pratique des bonnes œuvres. Alors, il faut faire très attention. On a tellement prêché le salut par la foi que finalement, dans bien des milieux, il n'y a plus d'œuvres. On est sauvé par la foi, on est sauvé. C'est tout. Mais montrez-moi vos œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre, qu'est-ce qu'elle est? Elle est morte. Il y a des œuvres mortes, donc ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais il y a aussi une foi sans œuvre qui est morte. Dire simplement, je suis sauvé. Et s'il n'y a pas d'œuvre, s'il n'y a pas une pratique et qui correspond justement à notre confession de foi, eh bien, nous vivons dans l'illusion. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. On aime ça. Au lieu de revenir au centre, on est des disputeurs, bien souvent. On veut couper les cheveux en 4. Laissons tout cela de côté. Revenons au Seigneur, car tout le reste est inutile et vain. Et verset 10, de nouveau une exhortation alors à cette discipline. Une sœur nous a dit que il est dit qu'il ne faut pas juger, ou j'ai souligné qu'il ne faut pas juger, mais pourtant il y a un jugement qui est porté bien. Oui, alors là aussi, éloigne-toi. Après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Quand on voit quelqu'un dans une église qui n'apporte comme fruit que la division, qui sépare les âmes au lieu de les unir, on l'avertit d'abord. On lui dit, écoute, ça c'est pas du bon travail. L'Esprit ne divise jamais le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare du mal et du monde. Mais il ne divise pas les enfants de Dieu. L'Esprit Saint nous unit ensemble. L'Esprit nous met ensemble. Et les divisions, il est dit que ce sont des œuvres de la chair. Il y a les œuvres mortes, il y a les œuvres de la chair, il y a les mauvaises œuvres, puis il y a les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, c'est les œuvres que Dieu a préparées. Alors, je mets de côté ça, sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Là, on a un jugement, on sait à qui nous avons affaire. Et alors, s'il ne veut pas écouter après un premier avertissement, un second avertissement, on s'en sépare, parce qu'on ne veut pas se laisser contaminer. Et vous arrivez à la conclusion de cet épître, où vous trouvez l'apôtre qui donne quelques renseignements à Tite. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, vous pouvez retrouver, pas Artémas, c'est je pense un compagnon de Paul, mais c'est surtout de Tychique qu'il est question dans plusieurs autres passages des épîtres de Paul. À toi de venir me rejoindre à Nicopolis. Il y a plusieurs villes qui s'appellent Nicopolis. Je ne vais pas vous faire une leçon de géographie là-dessus. Mais l'apôtre Paul pensait passé l'hiver à Nicopolis. Il avait résolu de passer l'hiver. On ne sait pas s'il a passé l'hiver là. Il écrivait là de Rome. Et soin ensuite de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, c'était donc un juif converti, un avocat, et d'Apollos. Apollos, c'était ce croyant qui avait travaillé aussi à Corinthe, qui s'était laissé enseigner par Aquilas et Priscilla, une femme de Dieu aussi, qui lui avait expliqué plus exactement la doctrine du Seigneur. Et Apollos était un homme très éloquent dans les Écritures, et l'apôtre Paul se réjouissait qu'Apollos soit entré dans son travail et puisse apporter des bénédictions à ses églises. Alors il dit à Tite, eh bien voilà, je m'en vais t'envoyer Artémas ou Tychique, et puis aie soin de pouvoir aussi au voyage de Zénas. Il lui annonce la venue de ce Zénas, docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Voilà des secours qui étaient donnés pour l'église de Crète, des hommes de Dieu, et la recommandation est faite qu'il faut recevoir ces hommes, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, c'est la sixième fois qu'il en est question, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Il recommande donc qu'on les aide matériellement, puisque eux apporteront des biens spirituels, et bien ceux qui bénéficient de biens spirituels doivent penser aux besoins matériels de ceux qui donnent tout leur temps pour enseigner la parole du Seigneur. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, ce sont ses compagnons, saluent ceux qui nous aiment dans la s'aimer vraiment dans la foi, c'est-à-dire dans cette vraie doctrine, dans cet ensemble des vérités du christianisme. Et le dernier mot, c'est le mot du commencement, que la grâce soit avec vous. Et bien voilà notre épître terminée. Nous n'avons fait que l'ébaucher, mais j'espère que par la grâce de Dieu, vous la relirez, vous imprégnerez de tout cela. Vous allez prier les uns pour les autres. Père de grâce, maintenant nous te remettons l'heure qui vient, qu'elle soit une heure très sainte, où nous ayons individuellement dans nos chambres un vrai tête-à-tête avec toi. Tu nous dis dans ta parole, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais tu ne brises pas les serrures. Tu ne violes pas les âmes. Tu frappes. Et tu voudrais que nous ouvrions de l'intérieur. Oh, que nous puissions te dire oui, Seigneur. Entre. Je te fais confiance. C'est toi qui vas nettoyer notre vie. C'est toi qui nous purifies. Donne-nous de ne pas penser que quand nous serons meilleurs, nous pourrons t'accepter. C'est parce que nous sommes perdus que nous devons t'accepter. C'est parce que sans toi, c'est la mort. Donne-nous ce soir ce regard de foi. Que ton esprit qui souffle où il veut, accomplit dans le silence de nos cœurs et de nos chambres cette œuvre, et que nous puissions dire oui, je crois. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est du cœur que l'on croit. Et c'est de la bouche que l'on fait confession. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'il y ait de la joie dans le ciel ce soir pour des âmes qui se tournent vers toi. Et qu'il y ait aussi de la joie dans le ciel pour des âmes qui reviennent à toi. Nous savons que le péché règne partout dans ce monde. Nous savons que Satan rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Nous savons qu'il voudrait nous faire tomber, mais nous voulons regarder à toi, qui veut nous donner la victoire et qui veut toucher nos cœurs. Personne, entendant sa voix ce soir, n'endurcisse son cœur. C'est la grâce que nous te demandons en te priant de nous accorder la nuit de ton amour en Jésus.